Je crois que ce soir, il y avait une invitation pour plusieurs ici. Faire ce choix de mettre tout votre espoir en Jésus. Je ne connais pas les circonstances de vos vies, mais je crois qu'il y a une invitation ce soir. Tu cherches à droite et à gauche, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas où, tu ne sais plus comment faire, mais une invitation pour toi ce soir. Mettre ton espoir en Jésus. Croire dans cette parole de Dieu. Croire dans ses promesses. Sans douter. Ce qu'il a pour toi est réel, est vrai. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la tradition. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Ensemble, nous plaçons notre espoir en Jésus ce soir. Amen. Alléluia. Trop bon. Patrice, merci de me rejoindre. Bienvenue encore à toi. Donc Patrice, il est venu enseigner à Startup Ministries 2 fois 2 jours, un cours sur la gestion d'église. J'ai pu en bénéficier aussi un petit bout. Alors c'est top, merci. Avec Patrice, on se connaît un peu de loin. En fait, on a plein d'amis en commun parce qu'on a fait, il a passé au Québec, il a fait sa formation biblique au Québec, tout comme moi, un peu plus tard que lui. Toute petite différence d'âge, c'est un peu mon grand frère. Et puis, du coup, on a des amis communs et tout. On s'est déjà croisé une fois ici, aussi avec Dan. Donc, voilà, c'est vraiment un plaisir, une fois, de t'avoir à l'escale un dimanche soir. Super.
Merci au pasteur pour cette invitation et pour le privilège que j'ai aujourd'hui de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je vois qu'en Suisse, c'est un peu comme en France. On laisse les premiers rangs vides et vous avez peur des intempéries du langage et... Il y a de la pluie qui tombe comme ça. Mais en tout cas, je me réjouis ce soir d'être avec vous. Merci à l'équipe de Louange. On aura l'occasion tout à l'heure de les réentendre pendant l'appel, je vous appellerai. On ne s'est pas coordonné, donc on se coordonne maintenant. Je vous rappelle tout à l'heure, et si on pouvait reprendre le dernier chant, ta parole est certaine. Parce qu'on croit que la parole de Dieu est certaine. Est-ce que vous le croyez ? Et vous avez les salutations de l'église Momentum et les salutations, bien sûr, de l'équipe pastorale de l'église Momentum. On a une douzaine de couples pastoraux à l'église et quelques-uns, vous en connaissez. Vous connaissez peut-être déjà Dan Luiten, mais un, vous devez le connaître particulièrement, c'est le pasteur, voilà. Mathieu est dans mon équipe et on se réjouit, Mathieu et Nicole sont juste un super couple et on est dans la joie de les avoir avec nous. Alors, vous avez les salutations de Mathieu et de Nicole. Vous voulez les applaudir, applaudissez-les. Je leur apporterai vos applaudissements, et promis. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Je me souviens, une fois, j'étais venu, et je n'ai pas prêché à l'église, mais j'avais donné un cours. C'était avant, là, dernièrement, j'étais à Startup Ministry, mais là, c'était un cours juste pour les jeunes. Et je me souviens, ils étaient juste assis là, moi, j'étais là, et je donnais un cours sur la prédication, sur comment prêcher. Alors, en tout cas, je suis content de nouveau d'être là. À l'époque, c'était Mathieu qui était pasteur, ça remonte à quelques années. Mais en tout cas, je me réjouis d'être là et de vous apporter, d'apporter le message de la parole de Dieu, parce que je crois, comme on l'a chanté, sa parole, elle est certaine. Et sa parole, elle est féconde. Sa parole, elle est créatrice. Je crois que lorsque nous recevons la parole de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, il y a quelque chose qui prend place. Est-ce que vous le croyez ça ? Et je crois que le message que j'ai, qui est un message de la parole, qui est un message biblique, je crois qu'il va nous faire du bien. Je crois vraiment qu'il va nous encourager parce que notre Dieu est capable de faire des miracles. Est-ce que vous le croyez ? Vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que Dieu, par exemple, cette semaine, alors que peut-être vous êtes malade, que cette semaine qui arrive, le médecin vous téléphone en vous disant « Écoutez, monsieur, madame, je ne sais pas ce qui prend place, mais on a eu vos analyses de sang et il n'y a plus aucune trace de maladie. » Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça ? Est-ce que vous croyez que, alors peut-être que ça fait des semaines, des mois que vous êtes dans la complication, dans les difficultés parce que vous n'avez pas de travail, est-ce que vous croyez, vous avez envoyé vos lettres de motivation, vous avez envoyé vos demandes, les candidatures déposées, enfin bref, tout, et là ça fait des semaines, des mois et c'est la galère, est-ce que vous croyez que cette semaine Dieu est capable d'agir et qu'on vous appelle pour vous dire « Monsieur, Madame, nous aimerions vous rencontrer pour un entretien d'embauche » Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Vous le croyez? Est-ce que vous croyez, alors peut-être que ça fait des semaines également, que vous demandez vraiment pour avoir un nouvel appartement et vous avez l'impression que le dossier est carrément en bas de la pile? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de prendre le dossier en bas de la pile et de le mettre au-dessus? Et qu'on vous téléphone cette semaine pour vous dire, il y a un appartement pour vous. Vous le croyez? Que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort. Moi, je crois que Dieu est capable d'agir. Alors, j'ai une autre question pour vous. Vous êtes prêts? Si Dieu fait ça, est-ce que vous seriez surpris? Non. Le nom l'emporte quand même. Il y a deux teams. Hein. Il y a la team non, il y a la team oui. J'ai vu deux, trois oui. Moi, je suis dans la team oui. Je suis dans l'équipe oui. Moi, en tout cas, quand je prie et que Dieu répond à mes prières, je dois vous faire cet aveu. Je me confesse devant vous aujourd'hui. Je suis toujours surpris quand Dieu répond à mes prières. Et j'aime ça. D'ailleurs, régulièrement, je prie, c'est une de mes prières régulières que je fais. Seigneur, viens me surprendre. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que tu fasses des choses, même si j'ai prié là-dessus, viens faire des choses qui viennent me surprendre. Et ce qui me rassure, c'est que quand je lis la parole de Dieu, je vois que je ne suis pas le seul comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui parfois sont surpris. Par exemple, il y a ce passage, lorsque l'Église a été établie dans les Actes des Apôtres, rapidement, l'Église a vécu une persécution. Et puis là, il y a Hérode qui a fait arrêter Jacques. Et malheureusement, Hérode va faire mourir un des pasteurs de l'équipe de l'église de Jérusalem de l'époque. Il va faire mourir Jacques. Alors vous imaginez que c'est une vraie persécution. C'est pas juste la ville nous aime pas trop ou on vit des complications. Là on parle de on tue ton pasteur. Et puis rapidement le roi va faire arrêter un autre pasteur de l'équipe, l'apôtre Pierre. Et quand Pierre est en prison, vous comprenez que l'Église est inquiète. L'Église est inquiète parce que, voilà, il vient de se passer ce qui s'est passé avec Jacques. Jacques est mort. Donc l'Église est vraiment, voilà, ils sont dans l'inquiétude comment ça va se passer pour Pierre. Et la Bible nous dit qu'ils se réunissaient dans les maisons et ils faisaient monter à Dieu des prières. Ils intercédaient, ils priaient pour que Dieu envoie vraiment le miraculeux pour que Pierre puisse sortir de la prison. Et Dieu répond aux prières. La Bible nous dit alors qu'ils étaient en train de prier, qu'ils faisaient monter à Dieu des prières, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange dans la prison. Et alors que Pierre était entouré par des escouades de soldats, 4 escouades, ça représente 16 personnes autour de lui, comme quoi c'était vraiment un prisonnier, il faisait attention à lui. Hein. Et là, il y avait les fers aux pieds, il était attaché. Et la Bible nous dit que les soldats sont tombés dans un profond sommeil et les chaînes sont tombées. On aime ça, hein. On aime quand les chaînes tombent. Et là, l'ange va prendre Pierre. Pierre va dire « Suis-moi » et Pierre va suivre l'ange et la Bible nous dit que les portes de fer vont s'ouvrir. Waouh ! Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Ça pourrait être un chant. Hein. C'est juste extraordinaire. Et lorsque Pierre sort, à votre avis, qu'est-ce que fait Pierre ? Il va voir l'Église. Il va voir ceux qui sont en train de prier pour lui. Alors il sait que dans telle maison, il y a des gens qui sont en train de prier. Alors Pierre va vers cette maison, dans le salon, il y a encore des gens, ils ne savent pas que Pierre a été libéré. Ils sont dans leur salon et ils prient, Seigneur, fais un miracle, Seigneur, agis, interviens, libère Pierre, fais quelque chose, Seigneur. Et d'un seul coup, ils entendent. Et la Bible nous dit que Rod, une servante, va aller, elle a entendu du bruit dans le vestibule, regardez ce qu'il est écrit, si tu peux mettre la diapo. Il frappa à la porte, il, c'est Pierre. Du vestibule. Et une servante nommée Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ok ? Et ils lui dirent, ils, c'est ceux qui étaient en train de prier pour que Pierre puisse être libéré. Ils lui dirent, tu es folle ! Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, mais non, c'est son ange ! Cependant, Pierre continuait à frapper. Comme quoi, ils ont mis quand même un peu de temps. Hein. Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Les gens priaient pour lui. Et lorsque Dieu a répondu à la prière, ils sont tous bouche bée. Ils pensent que c'est son ange. Ils ne croient pas. T'es folle, ça ne va pas. Tu dis n'importe quoi. Les gars, ils étaient les filles. Ils étaient en train de prier. Et Dieu intervient et ils n'en reviennent pas. Et je crois que notre Dieu est un Dieu qui désire nous surprendre. Il désire créer la surprise dans notre vie. Et c'est le titre de mon message, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît. Dieu est surprenant. Et j'aimerais ce soir vous montrer de quelle manière Dieu est surprenant. Juste pour regarder dans ce premier point, pour vous remettre un peu le contexte de l'histoire que nous allons regarder, il y a un homme qui s'appelle Kish. Vous avez déjà entendu parler de Kish ? Non ? Kish, c'est le papa d'un illustre personnage biblique. C'est la première fois qu'on entend parler de lui et c'est la première fois qu'on va entendre parler de son fils qui est le futur roi d'Israël, le roi Saül. Et la Bible nous dit que Kish va perdre ses ânesses. Et il faut comprendre que c'est une histoire qui date d'il y a 3000 ans en arrière. Et quand, à cette époque-là, tes ânesses, c'était pas juste un bourricot comme ça. C'était tes ânesses, c'était ton moyen de locomotion, c'était ta voiture. Mieux que ça, pour ceux qui sont artisans, c'était ta camionnette, ça te permettait de travailler, c'était ton gagne-pain. Donc perdre tes ânesses, c'était vraiment tu perds des gros. Et là, Kish, quand il va se lever, il va voir que les ânesses ne sont plus dans l'enclos. Il est inquiet. Il va aller voir son fils, Saül. Saül, il faut que tu cours à gauche et à droite. Bref, il faut que tu retrouves les ânesses. Et Saül va partir et il va prendre avec lui un serviteur. Et là, la Bible nous dit que pendant 3 jours, ils vont aller de gauche et de droite. Ils vont traverser plusieurs contrées et ils cherchent les ânesses perdues. Et au bout de 3 jours, Saül dit au serviteur, écoute, faut se rendre compte, faut se rendre à l'évidence. On ne les retrouvera pas. C'est fini, laissez tomber, rentrons à la maison, l'histoire est close. Et là, le serviteur dit à Saül, écoute, on n'est pas loin d'un petit village et je sais que dans ce petit village, il y a un homme de Dieu qui est capable de voir les choses. Il y a un prophète qui est là du nom de Samuel. Allons le voir, peut-être il sera capable de nous dire où sont passées les ânesses. Et Saül dit, ok, allons-y. Et là, ils vont dans le petit village, ils recherchent où est Samuel et ils finissent par le trouver. Et quand Saül voit Samuel, la question est simple. Il se retrouve devant lui, il lui dit ce qu'il vit et il lui dit « Sais-tu où sont passées nos ânesses ?» Et voici la réponse de Samuel. « Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours qu'elles ont été retrouvées. » Premièrement, ce soir, Dieu nous surprend en façonnant notre histoire. Je crois que notre Dieu est un Dieu de surprise, alors que nous pensons que tout est perdu, que nous avons perdu des choses, que c'est terminé. Dieu a la capacité de venir dans ton histoire, de s'inscrire dans ton histoire et littéralement de rentrer dans cette histoire pour t'amener à un endroit pour que tu puisses aller plus loin. Si vous avez des questions, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu a des réponses. Moi je me souviens quand j'étais jeune chrétien, à un moment donné, j'étais là, mais pourquoi, Seigneur ? Et là, je me souviens, quelqu'un qui m'a dit, on ne demande pas pourquoi à Dieu. Et j'ai trouvé ça dur quand même. On a le droit de demander pourquoi à Dieu. Dieu ne s'offusque pas lorsqu'on a des questions. Et si vous avez des questions, j'ai vraiment cette bonne nouvelle pour vous. Dieu a des réponses à vous donner. La Bible nous dit que Dieu est omniscient. Vous savez ce que ça veut dire, omniscient ? Et c'est là qu'ils peuvent me dire. Ça veut dire quoi ? Il sait tout ? Levez la main, s'il vous plaît. Il voit ? C'est ça ? Il est partout. Ça, partout, c'est omniprésent. Il sait tout. En fait, omniscient, si je devais donner la définition, je pense, en tout cas la mienne, que je trouve la plus juste possible, omniscient, ça veut dire que Dieu a une connaissance parfaite du passé, du présent, et des choses à venir. Et donc, Dieu est omniscient. Donc, quand on a des questions, on peut poser des questions à Dieu parce que Dieu sait tout. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît les choses à venir. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est le créateur du temps. Dieu est en dehors du temps et il sait tout ce qui prend place. Il connaît toutes choses. Il sait les larmes que tu as eues. Il sait ce que tu vis aujourd'hui. Et surtout, il connaît la fin de l'histoire. Et nous, des moments, nous sommes là dans cette souffrance parce que comme Saül, comme Kish, nous avons perdu quelque chose. Et il y a certainement ce soir des personnes qui sont là et vous avez perdu des choses. Peut-être des choses pires, vous avez perdu des personnes. Peut-être quelqu'un ici est là et tu as perdu ton mari, tu as peut-être perdu ton épouse, tu es endeuillé. Peut-être c'est, ou alors un époux ou une épouse qui a claqué la porte de la maison, c'est peut-être tes enfants qui ont claqué la porte de la maison, et tu es là, et il y a une souffrance dans ton cœur, il y a des questions qui sont là, parce que tu as perdu quelqu'un que tu aimais, tu as perdu des choses qui sont importantes. Et vous savez, un des synonymes du mot « perdre », c'est le mot « défaite ». Quand on perd, c'est la défaite. Et lorsque on a l'impression de perdre, quand on perd quelque chose, il y a vraiment un état d'esprit de défaite qui se met en nous. Et c'est comme d'un seul coup, notre marche devient lourde, elle devient compliquée, ça devient harassant parce qu'il y a en nous cette défaite, il y a en nous vraiment cette notion, nous avons perdu. Et j'ai cette parole à vous communiquer, à vous ce soir, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Non pas que Dieu se moque de ce que tu as perdu, mais Dieu n'est pas arrêté par ce que tu as perdu. Dieu peut utiliser ce que tu as perdu. Dieu a encore des plans pour ta vie. Dieu a encore des projets pour ta vie. Dieu a encore un avenir à espérer pour ta vie. Et même si tu as perdu des choses, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et que tous ceux qui le croient disent amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Alors, peut-être il y a des personnes, vous avez perdu une position sociale, un travail, une voiture. Mais j'aimerais te dire, Dieu n'est pas arrêté par ce que tu perds et Dieu va rentrer dans ton histoire, la façonner pour t'amener encore plus loin. Vous savez, il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des gens désespérés. Et Dieu est capable de prendre n'importe quelle situation et de la retourner. Et je crois vraiment que notre Dieu est capable de faire ça. Et lorsque, c'est ça qui est intéressant, lorsque Saül est devant Samuel et il lui dit « voilà, j'ai perdu mes ânesses » et que Samuel va lui dire « mais ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues ». Pourquoi Samuel dit ça? C'est parce que 24 heures auparavant, vous savez c'est comme dans les films, hein, 24 heures plus tôt, alors que Saül est au courant de rien et qu'il cherche de gauche et de droite où sont ses ânesses, Dieu est en train de préparer un plan. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Vous savez ce que c'est la providence? La providence, il y a la souveraineté de Dieu et la providence est sous l'égide de la souveraineté. La providence, c'est Dieu qui règle tous les détails de ta vie. Toi, tu crois que des moments, c'est des situations, c'est juste du hasard. Mais la réalité, c'est que le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il voyage incognito. Il est en train de régler tous les détails. Et alors que Saül est là, il ne comprend pas ce qu'il vit 24 heures auparavant. Regardez ce qu'il a dit. Dieu dit donc à Samuel, « Demain, à cette heure-ci, donc c'est vraiment 24 heures plus tôt, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. » Comprenez-vous? En fait, Dieu va utiliser ce que Saül a perdu. C'est très fort la pensée. Dieu va utiliser ce que Saül a perdu pour que Saül sorte de là où il était. C'est pas que c'est Dieu qui a fait perdre les ânesses, mais Dieu n'est pas arrêté parce qu'il avait perdu les ânesses. Et Dieu va utiliser cette situation pour amener Saül devant Samuel afin que Samuel lui donne une onction pour devenir le roi d'Israël. Et alors que toi tu cherches tes ânesses, alors que toi tu es dans l'inquiétude, Dieu va utiliser ce que tu perds, non pas que Dieu désire que tu perdes des choses, non pas que Dieu veut te faire du mal, mais Dieu n'est pas arrêté par ce que tu perds. Et Dieu va utiliser, il va façonner, il va rentrer dans le cours de ton histoire et il va être celui qui va t'amener à une place afin que tu puisses recevoir une onction royale, afin que tu puisses recevoir une nouvelle onction. Onction. Je crois, et il y a cette pensée que nous devons réaliser et saisir, c'est que Dieu connaît parfaitement la fin de l'histoire. La Bible nous dit ceci, Ésaïe 55, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. » On doit comprendre que nous, on voit, c'est peu finalement ce qu'on arrive à voir, mais Dieu connaît toute l'histoire. Vous savez, si je prends une feuille et que je la colle sur mes yeux comme ça, je ne suis pas capable. À votre avis, si je la colle comme ça sur mes yeux, est-ce que j'arrive à lire? Je ne peux pas lire. Je suis obligé de l'éloigner de mes yeux. Et alors que je l'éloigne, alors suivant l'âge que vous avez, plus ou moins loin, et au fur et à mesure que je l'éloigne, je vais commencer à voir un mot, je vais commencer à voir une phrase, et au bout d'un moment, je vais voir l'histoire en entier. Nous, la réalité, c'est que nous avons les yeux collés sur la feuille de nos vies. Et nous marchons, et je ne comprends pas, Seigneur, et t'es où, et pourquoi, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que tu fais? Il faut comprendre ceci, c'est que Dieu, lui, il connaît toute l'histoire. Et il y a cet appel à lui faire confiance. Seigneur, je ne sais pas ce que je vis, Mais je sais que ta parole est certaine, je sais que tes promesses sont parfaites et mon espoir est en toi. Je crois, Seigneur mon Dieu, que ma vie est entre tes mains et je crois que tu as un avenir pour moi à espérer. Je crois que tu veux mon bonheur, je crois que tu veux que je réussisse ton plan dans ma vie. Tu ne m'as pas créé pour échouer ma vie, tu ne m'as pas créé pour échouer le plan que tu as pour moi, mais tu m'as créé pour que je puisse briller pour la gloire de ton nom. Alors je te fais confiance. Je sais que même si mon histoire aujourd'hui est compliquée, tu es celui qui va m'amener à une place pour me donner une nouvelle onction afin de vivre et d'accomplir les plans et les projets que tu as formés pour moi. Pour cela, il y a un appel, deuxièmement, à rester. C'est pourquoi, si tu peux mettre la diapo, il y a la celle encore qui est après. C'est pourquoi il y a un appel à rester, si tu peux mettre celle qui est encore après, s'il te plaît, à rester dans l'émerveillement. Un des problèmes souvent que nous avons, c'est que, alors que Dieu veut faire des choses pour nous, on est incapable, alors que Dieu veut nous surprendre, on est incapable d'être surpris par Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que nous, on a nos schémas de bénédiction. C'est-à-dire qu'on a dit, Seigneur, c'est comme ça que tu dois me bénir. A, B, C, D, E, voici la ligne de la bénédiction. Ça, c'est le calcul, c'est comme ça, Seigneur, que tu fais. Sauf que si Dieu fait différemment, qu'est-ce qui se passe ? Parfois, Dieu est en train de vouloir nous surprendre, mais on est incapable de capter que Dieu désire nous surprendre parce qu'on est tellement focalisé, focus sur c'est comme ça, Seigneur, c'est ça le schéma de bénédiction, qu'on est incapable de voir quand Dieu est en train de nous bénir. Il y a un passage dans la parole que j'aime beaucoup, et c'est le suivant, si tu peux mettre la diapo. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Lorsque, en règle générale, nous prêchons sur ce passage-là, et moi-même, lorsque j'ai souvent prêché sur ce passage-là, ce qu'on en fait ressortir principalement, c'est la foi d'un enfant. C'est vrai qu'un enfant, ça a une foi merveilleuse. Hein. Moi, je me souviens, mon petit garçon, maintenant il est grand, mais quand il était tout petit, je le mettais là en haut et je disais, vas-y, saute dans les bras de papa. Et mon petit garçon, il sautait dans mes bras. Il ne se posait pas de questions. Il ne se disait pas, ouais. Au moment où je vais sauter, mon père, il va faire, olé, non. Il ne se dit pas ça. Il se dit, c'est mon papa, je lui fais confiance. Et c'est beau, cette pensée-là. La notion de la foi, c'est la confiance. Je fais confiance à mon Père céleste. Mais j'aimerais vous sortir, vous savez, un verset, c'est comme un diamant, il y a plusieurs facettes. J'aimerais vous faire ressortir une autre chose également sur ce qu'est un petit enfant. La foi d'un enfant, c'est... Un enfant a cette beauté, c'est qu'il est toujours émerveillé. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Un enfant est toujours émerveillé. Moi, il y a quelques temps de ça en arrière, j'étais chez des gens et ils avaient un bocal avec un poisson rouge. Ma capacité d'émerveillement devant un poisson rouge est de l'ordre à peu près de 2 secondes. Là, une petite fille de 5-6 ans arrive et sans blague, elle est restée 15 minutes devant le poisson. Elle était là, les yeux écarquillés, elle vivait un bonheur absolu, quoi. Et c'est ça la beauté d'un enfant. Le 14 juillet en France, on fête la fête de l'armistice, et là, il y a des feux d'artifice. Moi, quand j'étais gamin, le feu d'artifice, ça durait 3-4 minutes. Et là, aujourd'hui, on est rendu en France pour que le feu d'artifice, il faut qu'il dure quasiment 30 minutes, et dans les 30 minutes, le final doit durer 20 minutes. Vous imaginez le truc, tu vois ? Il faut que ça pète dans tous les sens, il faut que t'en prennes plein les yeux, il faut que le ciel soit illuminé, il faut que t'entends les « pa, pa, pa » de tous les côtés, et en même temps, t'as la grosse sono avec une grosse musique dessus, tu vois ? Et il suffit que il y a eu un petit peu moins de feux d'artifice que l'année d'avant, mais tu vois, le truc ridicule. Les gens partent et « ouais, bof, cette année, c'était pas génial. » Regardez un enfant, tu lui donnes un petit pétard. Le petit pétard, là, saute et tous les enfants sont émerveillés. C'est ça, un enfant. Il a cette capacité d'émerveillement. Et on était comme ça quand on était enfant. Puis on grandit et un jour, on devient des ados. Et là, c'est « oh, bof ». Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui m'émerveille, je suis blasé, quoi. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui restent ados, ils ont 60 ans, ils sont toujours des ados. Ils sont toujours blasés. On perd cette capacité d'émerveillement. Et c'est ça qui est beau chez un enfant, c'est qu'il est toujours émerveillé. Moi, j'ai une théorie sur pourquoi les enfants courent. Moi, je me souviens, ma fille, quand elle était petite, la deuxième, lorsqu'elle a appris à marcher, le jour où elle a su marcher. C'est pas une blague. Hein. Le jour où ma fille Colline, le jour où elle a su marcher, pendant 2 ans, elle a couru. Elle s'est, on l'appelait le ventilateur à la maison. Elle n'arrêtait pas, elle courait. Elle se déplaçait tout le temps en courant. On a tous eu des gamins comme ça. Hein. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Et j'ai une théorie de pourquoi les enfants courent toujours. C'est parce qu'ils sont émerveillés. Ils veulent vivre des aventures. Le matin, elle se lève, d'aller manger ses céréales, c'est une aventure. Derrière le paquet de céréales, il y a des jeux. Après, ils courent dans leur chambre, il y a des jouets. Après, ils courent dehors, il y a les copains, les copines. Ils sont toujours... Il y a cette notion. Puis après, ils grandissent et c'est... Ouais, bof. Ça devient plus compliqué. Et c'est exactement pareil pour nous. Paul dit, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté ? C'est ça que Paul est en train de souligner. Vous couriez si bien. Souvenez-vous quand vous avez donné votre vie à Jésus. Vous vous en souvenez ? Tout était génial. T'arrivais à l'église, tous les chrétiens étaient super. Mais vraiment. Ils étaient géniaux, les chrétiens, tous. Il n'y en a pas un qui n'était pas bien. Tu les aimais tous. Les prédicateurs, tous. Ils prêchaient tous bien. Il n'y en avait pas un qui n'était pas bien. Tous, ils prêchaient bien. Ceux qui faisaient la louange, oh, à chaque fois, tu touchais le cœur de Dieu. Tout était super. Et tu arrivais et on s'occupait de tes enfants, c'est gratuit. Ah oui, c'est, oh, mais c'est génial. Tu arrivais dans la salle, c'est propre. Et les gens, ils font ça, c'est gratuit. Oui, oui. Tout était super. Et puis après, au bout d'un moment, on se blase. Comprenez-vous ? Et moi, je crois que pour être émerveillé, il faut garder le cœur d'un enfant. Il faut garder cette capacité. C'est pour ça que c'est important de prier pour ça. Seigneur, viens m'émerveiller. Viens faire des choses dans ma vie. Viens m'ouvrir les yeux. Viens faire. Vous savez, Jésus, quand il arrivait quelque part, il créait toujours l'émerveillement. Tout le temps, il créait l'émerveillement. J'ai noté ceci, si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Dans les évangiles, Jésus ne cesse de créer la surprise. Tout le temps. Des moments, il est dit que Jésus arrivait et les gens étaient surpris de le voir. Je ne sais pas comment il arrivait, mais les gens étaient surpris. Vraiment, c'est écrit ça. Jésus arrivait, les gens étaient surpris de le voir. Ils étaient surpris de son enseignement. Parfois, Jésus guérissait, et la Bible nous dit que les gens, lorsqu'ils repartaient, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étonnantes. C'est vrai que Jésus était étonnant. Jésus était toujours en train de créer la surprise et l'étonnement. Il y a même une histoire dans la Bible, c'est spécial. La Bible nous dit, il se retrouve devant un aveugle, il prend de la terre, il crache dessus, il fait une petite boue et il colle ça sur les yeux du gars. C'est surprenant quand même. Non, sérieusement. Ceux qui ne sont pas convaincus de ça, venez me voir à la fin de la réunion, on va aller dehors. Je vais prendre de la terre, je vais cracher dessus, je vais vous coller ça. Je pense que ça va, vous allez être surpris quand même, vous allez être surpris. Jésus était surprenant. Et Jésus crée tout le temps des surprises. Et moi, je crois que ce Dieu qui dit, si tu peux mettre la diapo, qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe, je crois que ce Dieu est capable de nous étonner. Celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe, je crois qu'il a une capacité et une puissance où il peut nous étonner. Et il y a plein de passages. Et un passage que j'aime beaucoup, c'est le passage d'Élie, le prophète Élie. Je ne sais pas si vous connaissez. La Bible nous dit un jour, Élie va voir un mauvais roi qui s'appelle Akab, et après lui avoir parlé, la Bible nous dit que le Seigneur va lui dire « Pars et va près d'un torrent, le torrent de Kérit, parce que le ciel allait être fermé, il n'allait plus avoir de pluie, donc va auprès du torrent, comme ça tu auras de l'eau à boire. » Et la Bible nous dit que Dieu va dire à Élie « Ne t'inquiète pas de ce que tu as à manger, tous les jours je vais t'envoyer des oiseaux qui vont t'apporter à manger, un beefsteak. » C'est surprenant. Surprenant. Tous les jours, tu as un beefsteak qui arrive, c'est un oiseau qui est là, c'est un corbeau, et même si tu ne crois pas, lui, il est là, croix, 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 hop, il te donne ça. Et il te donne à manger. Mais c'est génial. Et là, tu es là, tu as le corbeau. Mais là, comprenez ceci. Comprenez ceci. On sait que c'est un corbeau, ok ? Mais imaginez que vous ne savez pas ce que c'est que oiseau. C'est juste écrit oiseau, ok ? Et que là, on demande aux chrétiens pentecôtistes que vous êtes, que je suis, à votre avis, quel était l'oiseau que Dieu a utilisé ? Je l'ai entendu, hein ? Tout le monde aurait dit, la colombe. C'est évident, tu ne connais rien en théologie, toi. C'est la colombe, c'est le Saint-Esprit. Sauf que Dieu n'a pas pris une colombe, il a pris un corbeau, un oiseau de mauvais augure, un rapace. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que toi, et c'est pour ça que des moments, on n'est plus capable d'être surpris. C'est parce que nous, on cherche les colombes, alors que Dieu nous envoie des corbeaux. Et nous, on est sûr que c'est comme ça. Dieu, c'est comme ça que tu dois me bénir. A, B, C, D, c'est ça le schéma du Saint-Esprit. Mais Dieu t'envoie des corbeaux et toi, tu cherches des colombes. C'est pour ça que tu n'es plus capable. C'est pour ça que quand Dieu veut te surprendre, tu vois plus ce qui se passe. Et j'aimerais te dire, Dieu utilise qui il veut pour te bénir. Est-ce que vous le savez? Il peut utiliser un chrétien de ton église, il peut utiliser un athée, il peut même utiliser un musulman ou un bouddhiste. Dieu est sur son trône et il fait ce qui lui plaît. J'ai lu cette histoire qui m'a fait sourire, je vous la partage. Et il y a une dame qui était une chrétienne, qui avait une voisine de palier qui était athée. Et la chrétienne, elle aimait bien évangéliser, mais ce n'était pas la plus douée du monde. Elle était un peu trop intense quand même dans son désir de vouloir amener les gens à Dieu. Et là, la chrétienne, à chaque fois qu'elle voyait la dame athée dans le couloir, elle aimait bien dire « Gloire à Dieu !» Et à chaque fois, la dame athée lui répondait « Dieu n'existe pas !» Et tous les jours, elle se croisait, gloire, dès qu'elle la voyait, elle était au taquet, gloire à Dieu, mais Dieu n'existe pas. Puis un jour, la chrétienne, qui était une maman monoparentale, seule, elle vit un drame, elle n'a plus rien à manger, elle est dans une complication, dans la précarité. Et là, elle est sur son balcon et elle prie. Elle dit, Seigneur, tu vois, j'ai plus rien dans mon frigo, ma petite fille va se lever, j'en ai marre, c'est la galère, s'il te plaît, Seigneur, agis. Et là, la dame athée était sur son balcon aussi à côté, elle l'a entendu prier. Et la dame, elle a beau être athée, elle a un cœur. Et elle dit, mais je ne peux pas laisser cette dame comme ça. Donc, elle dit rien. Elle descend à l'épicerie. Elle lui achète une boîte de nourriture. Vraiment, tout un carton. Elle met de la nourriture à l'intérieur. Et vu qu'elles sont un peu en froid, elle n'ose pas aller lui dire. Donc, elle prend ça et elle met ça devant la porte. Quelques instants après, la chrétienne ouvre la porte. Et là, elle voit la nourriture. Et là, elle est au taquet. Gloire à Dieu ! Elle est toute contente. Elle prend ça. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Dieu a répondu à sa prière. Et là, quelques 2-3 heures après, elle sort chez elle et elle croise la dame athée. Et là, la chrétienne, elle est au taquet, là, elle est en haut. Là, elle vient de vivre un truc de folie, quoi. Et là, elle voit la dame athée et la chrétienne est là, gloire à Dieu! Et l'autre, elle lui dit, Dieu n'existe pas. Elle dit, ah si, Dieu existe. Et j'ai même un témoignage aujourd'hui à vous raconter. Ce matin, je priais parce que je n'avais rien à manger et Dieu m'a livré devant ma porte un carton de nourriture. Ah, tu vois que Dieu existe. Et là, la dame, elle ne voulait pas lui dire à la base, mais là, elle est piquée. Ah, elle est piquée. Donc, elle dit, mais écoute, Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. Dit, Dieu n'a rien à voir du tout, je t'ai entendu ce matin prier. Et j'ai tellement eu de peine, c'est moi qui t'ai acheté de la nourriture. Et là, la dame, elle regarde, la chrétienne, elle la regarde, et d'un seul coup, elle lève les yeux au ciel, elle fait, Seigneur, t'es trop fort! Non seulement tu m'as donné de la nourriture, mais t'as fait en sorte que ce soit Satan qui paye! N'applaudissez pas ça, n'applaudissez pas. C'est pas bien, n'imitez jamais cette chrétienne, ok? Ce qu'elle a fait, c'est mal, qu'on s'entende bien, c'est mal. Mais mon point est le suivant, c'est que Dieu utilise qui il veut pour te bénir. Dieu utilise qui il veut pour te bénir. Il peut utiliser une colombe, il peut utiliser un corbeau. Donc, reste dans l'émerveillement. Dis Seigneur, au-delà de mes schémas de bénédiction, je te prie, Seigneur, que toi, tu es celui qui vienne m'apporter, que tu es celui qui vienne me surprendre. Et alors que tu restes avec ce cœur d'enfant, je crois que le Seigneur est celui qui va s'insinuer dans l'histoire de ta vie, il va la façonner et il est celui qui va être capable d'apporter cette solution. Comme vous le voyez, troisièmement et dernièrement, le Seigneur a toujours une solution. Est-ce que vous le croyez ? J'ai demandé aux musiciens s'ils pouvaient revenir, s'il vous plaît, et juste commencer à jouer des pads tranquilles. La Bible dit ceci, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle et le disciple qu'il aimait, donc c'était l'apôtre Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Là, la raison de la souffrance est très simple à comprendre. Il y a une maman qui est en train de perdre son fils. Marie a beau savoir qui est Jésus, il n'en demeure pas moins que c'est une maman. Et en tant que maman, voir son fils souffrir, voir son enfant souffrir, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et je crois que si on avait demandé à Marie, qu'est-ce que tu veux, Marie ? Pour toi, c'est quoi la solution là de ce qui prend place? Je suis persuadé que Marie aurait dit, faites descendre Jésus. faites descendre mon fils, là, les clous, le dos lacéré, la flagellation, tout ça, là, s'il vous plaît, arrêtez la torture. Arrêtez tout de suite. Faites-le descendre, s'il vous plaît, maintenant. Ça aurait été sa solution. Si on avait demandé à Jean, Jean, c'est quoi pour toi la solution ? Il faut comprendre que Jean, à ce moment-là, nous, souvent, dans notre tête, Jean, tu peux commencer à jouer si tu veux. Jean, c'est quoi pour toi la solution ? Certainement que Jean, nous, souvent, on le voit très âgé, mais ça, c'est sur l'île de Patmos, hein, quand il a sa grande barbe blanche, et c'est des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Là, la plupart des commentateurs nous disent que Jean était extrêmement jeune. Il était un ado ou sortait de l'adolescence, 17, 18, 19 ans. Il était très jeune. Et si on aurait demandé à Jean, c'est quoi pour toi ? Et lui, certainement, qui avait vraiment un cœur, il avait vraiment c'est mon héros, Jésus. C'est quoi ce que je veux ? Faites-le descendre de la croix. Je veux encore que Jésus reste avec moi. Oui, mais voilà, ce n'était pas la solution de Dieu. La solution de Dieu était que Jésus meure sur la croix afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il fallait que Jésus meure sur la croix. C'était le plan de Dieu. Maintenant, comprenez ceci. C'est que Dieu jamais ne délaisse qui se confie en lui. Et quand bien même Dieu ne te donne pas la solution que tu avais envisagée, il te donnera quand même une solution. Marie est dans la souffrance parce qu'elle perd un fils. Que fait Jésus ? Il lui dit, femme, voici ton fils, en montrant Jean. Tu pleures parce que tu perds un enfant, je t'en donne un autre. Il a une solution pour elle. Jean, tu es dans la souffrance. C'est un jeune homme. Qui de mieux, les amis, qui de mieux sur cette terre qu'une maman pour consoler quelqu'un qui souffre ? Il n'y a pas mieux que les bras d'une maman. Et le Seigneur a pris soin d'eux. Il a pris soin de cette femme qui perdait un fils. Il a pris soin de ce jeune homme qui était dans la souffrance. Et Dieu aurait pu dire, s'il vous plaît, s'il y a un moment où Jésus était occupé sur cette terre, c'est bien quand il mourait sur la croix. Les puissances démoniaques étaient là, ils réglaient le problème du péché, le problème de l'humanité, ils réglaient mon problème, ils réglaient ton problème, et au milieu de tout ça, il y a une souffrance physique qui est énorme. Il aurait pu dire, s'il vous plaît, allez pleurer un peu plus loin, et puis vous reviendrez quand ça ira mieux. Non, Jésus a fait une parenthèse dans tout ce qu'il était en train de régler, pour s'occuper de ceux qui venaient à ses pieds. Et j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur est capable de faire une parenthèse pour s'occuper de toi. Mais non, Jésus, il a trop de choses. Il y a des milliards de personnes sur cette terre qui prient, il y a des guerres, il y a des familles, Non, non, non. Viens au pied de Jésus parce qu'il a une solution pour toi. Dieu est capable de te surprendre. Dieu est capable de rentrer dans le cours de ton histoire. Et alors que toi, tu pleures parce que tu as perdu tes ânesses, Dieu est capable d'utiliser ce que tu as perdu pour t'amener à une nouvelle place, pour te donner un avenir à espérer. C'est pourquoi reste dans l'émerveillement et comprends que Dieu aura toujours une solution. Celle que tu avais envisagée, 80% du temps, c'est celle que tu avais envisagée. Mais même si ce n'est pas celle-là, Dieu aura quand même une solution pour toi. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Seigneur mon Dieu, je te prie, pour toutes les personnes qui sont là, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher les cœurs, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés. Si ce soir tu es là dans ce lieu et que ce message t'a parlé, ce message t'a interpellé et que tu es une personne qui a besoin de la solution de Dieu dans ta vie, alors que les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés, je t'invite juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a des mains qui se lèvent partout à travers ce lieu, d'autres mains, encore d'autres mains, plusieurs mains se lèvent. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces personnes, je te prie pour la raison pour laquelle ils lèvent leurs mains, pouvez les rebaisser. Je te prie pour la raison pour laquelle ils ont levé leurs mains. Je te prie, Seigneur mon Dieu, alors qu'ils répondent en toute honnêteté, en toute simplicité, je prie, Seigneur mon Dieu, que ce soit ce soir ou dans les jours qui arrivent, je prie que tu viennes les surprendre. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu leur donnes une solution celle qu'ils avaient pensée ou une autre. Mais viens les surprendre, Seigneur mon Dieu. Tu n'es jamais arrêté. Personne ne peut t'arrêter. Tu es le grand Dieu de l'univers. Tu es le puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Et quels que soient les combats, quelles que soient les complications que nous vivons, Seigneur mon Dieu, tu es là. Et ton nom est une source inépuisable de possibilités. Alors je prie que tu consoles. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu pourvoies. Je prie que tu restaures. Je prie que tu pardonnes. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu donnes une solution à tous ceux qui viennent humblement à tes pieds ce soir. Dans le nom de Jésus, je prie que personne ne doute de ta parole, que personne ne doute de ce que tu vas être capable de faire. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié et tout le monde dit Amen et acclame bien fort celui qui est digne de recevoir la louange et l'honneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant avec déclaration, comme une déclaration de foi et d'intention ce soir?